bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et il nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui.
Nous sommes contents d'accueillir trois invités. Sandra va nous lire le texte biblique pour aujourd'hui. Robert nous fera quelques commentaires sur ce texte afin que nous puissions le comprendre. Et puis Jean-Samuel en tirera quelques leçons pertinentes.
Suite au meurtre qu'il a commis, Moïse est obligé de fuir le pays d'Égypte. Dans le désert, Moïse va alors rencontrer une famille de la tribu de Madian, dont il va protéger les filles venues chercher de l'eau à un puits pour leur troupeau. En remerciement, leur père permet à Moïse de demeurer chez eux. Moïse passa ainsi 40 ans de sa vie en tant que nomade et berger dans le désert. Mais durant tout ce temps, que se passait-il en Égypte? Que devenait le peuple dont Moïse était issu, le peuple de Dieu? Nous allons découvrir la réponse à cette question dans la courte lecture biblique qui suit. Cédons la parole à Sandra.
Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage, et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur plainte et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation.
Vous venez d'écouter la lecture du livre de l'Exode, chapitre 2, les versets 23 à 25. À présent, Robert va nous aider à mieux comprendre ce texte. Robert, bonjour.
Merci Hélène, et bonjour à tous. Nous apprenons que le peuple de Dieu continuait à souffrir en Égypte. Un pharaon mourut, puis un autre prit sa place. Toutefois, ce changement de leader n'a amené aucun changement politique concernant la façon dont le peuple de Dieu est traité. En effet, le peuple d'Israël reste soumis à l'esclavage. Et le pharaon l'utilise comme main-d'œuvre pour participer au grand chantier de construction dont il tire toute la gloire. Nous constatons que, tout au long de l'histoire, les grands et les puissants de ce monde ont recours à l'exploitation en opprimant les faibles, dans le but de s'enrichir et de devenir encore plus puissant, ou pour accomplir des projets grandioses. Aujourd'hui encore, les hommes n'ont pas changé, car nous constatons ces mêmes attitudes.
Dans les deux premiers chapitres du livre de l'Exode, le nom de Dieu y est très peu présent. C'est seulement dans le texte que notre lectrice a lu que nous en apprenons davantage sur lui. Nous pouvons alors nous demander pourquoi le peuple d'Israël, un peuple choisi par Dieu, a dû endurer tant de souffrances et durant tant d'années. Chers amis, nous savons que beaucoup d'entre vous vivaient la pauvreté et l'injustice, l'insécurité et des conditions de travail cruelles. Et ces circonstances éprouvantes, qui peuvent durer de longues années, suscitent des questions profondes. Dieu, où est-il? Que fait-il? Est-il indifférent à mon sort? Nous réfléchirons à ces questions dans la suite de notre émission. En attendant, Robert va nous faire part de ses pensées.
Avant de parler du caractère de Dieu tel qu'il est révélé dans le texte lu, je voudrais revenir sur son peuple. Car s'il est vrai que le nom de Dieu est à peine mentionné dans les deux premiers chapitres du livre de l'Exode, aucune mention n'est faite non plus sur la prière. C'est seulement à la fin du chapitre 2, alors que le peuple endure l'esclavage et ploie sous les travaux forcés depuis des décennies, qu'il se tourne vers Dieu pour lui crier sa souffrance. Nous ignorons quelle était l'attitude du peuple envers Dieu durant les années qui ont précédé, années faites de souffrance. Nous ne savons pas à quel point ils ont prié l'Éternel. Nous ne savons pas si le peuple s'accrochait aux promesses de Dieu pour mettre son espoir en lui. Cependant, selon le texte lu aujourd'hui, alors que Moïse vit dans le désert, les souffrances du peuple sont devenues si dures, leur désespoir si grand, que l'on assiste à un incroyable retour à Dieu. Ce retour à Dieu est exprimé par des prières, de lamentations, issues de leur cœur en détresse, de la part de gens qui ne savaient plus où se tourner, sinon vers le Dieu de leurs ancêtres. Qu'en est-il pour vous, cher ami ? La détresse et la souffrance sont de dures réalités dans la vie de trop de gens. Et touché par les épreuves, on peut se demander « Dieu m'a-t-il oublié ?» Toutefois, posons-nous aussi la question suivante. Et moi, est-ce que j'ai oublié Dieu ? Car comment pouvons-nous nous attendre à ce que Dieu vienne à notre secours si nous ne l'honorons pas avec un cœur sincère ? L'exemple du peuple d'Israël est instructif. Il finit par rechercher Dieu et l'implorer dans ses prières. Il finit par lui exprimer sa détresse avec beaucoup d'émotion et de lamentation.
Robert vient d'attirer notre attention sur cette démarche de prière de la part du peuple de Dieu. À présent, il va nous parler plus en détail du caractère de l'Éternel, le Dieu du peuple d'Israël.
Dieu est si différent de nous. Comment le décrire ? Pourtant, dans sa grâce, il se fait connaître. Il se révèle d'une manière qui nous permet de saisir qui il est, afin que nous comprenions sa nature et son caractère. Dieu est invisible. Il n'a pas de corps. Toutefois, dans le texte lu, il est décrit tel un être humain. Le verset nous apprend qu'il entend les cris de son peuple. Il nous révèle qu'il se souvient de son alliance avec Abraham, qu'il voit les épreuves que son peuple endure depuis de longues années. Dieu entend, mais il n'a pas d'oreille. Il voit, mais il n'a pas Dieu. Pour comprendre Dieu, nous sommes obligés de le décrire avec un langage très humain, car nous ne disposons pas d'autres mots. Dieu accepte de s'abaisser. Il accepte que nous le décrivions ainsi, car ces mots humains nous permettent de mieux saisir les vérités importantes sur lui. Dieu entend les cris de son peuple. Il entendit les cris du peuple d'Israël en Égypte, et encore de nos jours, il entend les cris des croyants partout dans le monde. Si Dieu entend, c'est une façon de dire qu'il sait parfaitement quelles épreuves son peuple traverse. C'est pour exprimer aussi qu'il n'est pas indifférent aux souffrances des hommes. Et, bibliquement, c'est aussi une façon d'affirmer qu'il va agir, qu'il va intervenir, qu'il va faire quelque chose pour sauver ceux qui se tournent vers lui. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham. Cette affirmation souligne que Dieu tient sa parole. Ses promesses se réalisent. Ses engagements envers son peuple sont tenus. Dans le contexte du livre de l'Exode, dire que Dieu se souvient de son alliance, c'est aussi une façon d'affirmer qu'il va bientôt agir pour secourir. C'est déclarer que ses promesses faites à leur père sont sur le point de se réaliser. Beaucoup d'hommes ferment les yeux devant les malheurs qui les entourent. Ils se cachent les réalités qui les dérangent. Pourtant, Dieu n'agit pas ainsi. Dieu voit tout. Il est au courant de notre détresse. Et lorsque la Bible annonce que Dieu voit, c'est aussi une façon d'exprimer qu'il va agir. Les malheurs subis par son peuple suscitent sa compassion. Et sa compassion le pousse à agir. En son temps et selon sa volonté, sa délivrance se verra.
Merci Robert d'avoir orienté ainsi nos regards sur la bonté de Dieu et de nous avoir dévoilé quelques-unes de ses qualités. Dieu est digne de confiance. À présent, Jean-Samuel nous rejoint sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. À partir du texte lu dans le livre de l'Exode, il va approfondir quelques questions et nous faire part de leçons pertinentes pour nous aujourd'hui. Jean-Samuel, bonjour.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Le peuple de Dieu souffrait en Égypte et pourtant Dieu lui avait fait dans le passé des promesses merveilleuses. Notamment celle que ce peuple deviendrait un jour une nation vivant sur ses propres terres. Ce peuple devait alors se demander, mais pourquoi Dieu tarde-t-il à accomplir ses promesses ? Pourquoi devons-nous attendre encore autant de temps alors que nous sommes déjà si éprouvés. Mes amis, le Seigneur Jésus a lui aussi fait des promesses à son peuple, l'Église. Il lui a promis qu'un jour, il reviendrait pour faire toutes choses nouvelles. Il a déclaré qu'un jour, ses enfants ressusciteront tous et qu'ils vivront à jamais. Mais pourquoi alors Jésus tarde-t-il à accomplir ses promesses ? Mes amis, si vous êtes accablés, si vous vivez des circonstances tout aussi éprouvantes que celles endurées par le peuple d'Israël en Égypte, alors tout comme ce peuple, vous pouvez crier votre détresse au Seigneur et implorer son secours. Vous aussi, vous pouvez vous demander pourquoi tant d'épreuves ? Pourquoi la délivrance de Dieu tarde-t-elle ? Pourquoi attendre aussi longtemps le retour de Jésus-Christ ? C'est un mystère. Voici très brièvement quelques éléments de réponse à cette question. Pourquoi attendre encore ? D'abord, si Jésus tarde à revenir, c'est une preuve de la miséricorde de Dieu qui donne encore aux non-croyants la chance de se repentir. Car ne l'oublions pas, si Jésus doit revenir pour délivrer son Église, il reviendra aussi pour juger les nations, pour juger toute personne qui le rejette. Ainsi, en attendant le retour de Jésus, nous devons user de compassion envers les gens en leur donnant l'occasion de se repentir, en proclamant fidèlement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ensuite, souvent Dieu nous fait attendre avant de nous envoyer son secours ou de répondre à nos prières. Toutefois, à travers ces périodes d'attente ou de silence, il est à l'œuvre dans nos vies pour y produire de bons fruits à sa gloire. Si en attendant son secours, nous mettons notre confiance en lui et nous continuons à espérer en lui, alors nous lui prouvons l'authenticité et la sincérité de notre foi. Le Nouveau Testament nous enseigne que c'est souvent dans l'épreuve et dans l'attente de la délivrance que nous grandissons vers plus de maturité de foi et notre caractère ressemble davantage à celui de Jésus-Christ. Et pour finir, voici quelques paroles d'encouragement. Tous les grands personnages de la Bible ont vécu de longues périodes d'attente, accompagnées souvent de dures épreuves, avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu et son secours se matérialiser. Citons Abraham, Joseph, Moïse et David, pour ne nommer que ceux-là. Dieu tient toujours sa parole. Il leur a fait en effet des promesses et elles ont fini par s'accomplir. Nous pouvons avoir cette confiance que ce que Dieu a fait dans le passé pour ses enfants, il le fera aussi pour nous dans l'avenir. Soyons-en sûrs, Jésus reviendra tôt ou tard. Fort de cette conviction, nous pouvons l'attendre avec patience et joie. Nous pouvons attendre Jésus et puiser en lui les forces nécessaires pour endurer nos épreuves. Oui, nous pouvons mettre notre espérance en Jésus. Il reviendra un jour. N'en doutons pas.
Merci Jean-Samuel pour ces paroles encourageantes. C'est ainsi que notre première série sur le livre de l'Exode se termine. Mais nous poursuivrons nos réflexions sur ce livre bientôt.
Nous remercions donc nos deux invités pour leur participation enrichissante tout au long de cette série. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.